Europe 1.
Et si on parlait sport ?
Jacques Vendroux.
Tous les samedis, eh bien, nous allons recevoir, comme on dit, tous les leaders politiques qui vont parler de sport. Et si on parlait de sport ? Comment ça va, Sandrine Rousseau ?
Mais ça va bien, Jacques Vendroux. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
C'est vrai ?
Mais oui, parce que vous êtes quelqu'un pour moi, voilà.
Merci, Sandrine Rousseau. En tous les cas, vous êtes sur Europe 1. Habituellement, vous êtes chez Dimitri Pavlenko, chez Sonia Mabrouk, chez Laurence Ferrari. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes chez nous pour parler de sport. En fait, je me suis aperçu, il y a quelque temps, que les leaders politiques dont vous faites partie, eh bien, vous ne parlez pas beaucoup de sport. Et si on parle de sport, c'est le titre de cette émission. Vous êtes député de Paris, votre parti Europe, Écologie Les Verts. Le sport fait partie de notre ADN, à tous, de notre culture. Et on a besoin de rêver en regardant évidemment les grands événements sport à la télévision, en écoutant Europe 1 avec Jean-François Pérez et ses équipes dans Europe 1 Sport. On a besoin également d'entretenir le devoir de mémoire en n'oubliant pas ceux qui nous ont fait gagner une première fois, nos premiers vainqueurs, que ce soit Alain Mimoun, Michel Jazzy, Alain Prost, Yannick Noah, Marie-Josée Pérec, Jeannie Longo, Amélie Mauresmo, Michel Platini, Zinedine Zidane, Serge Blanco, Bernard Hinault et bien d'autres. Mais pour commencer ce premier rendez-vous, on va parler de sport pendant près de 50 minutes. Sandrine Rousseau, merci d'être avec nous.
Europe 1, et si on parlait sport ?
Jacques Vendroux.
Première question, Sandrine Rousseau, en rappelant qu'on vous remercie vraiment d'être avec nous pour cette première émission. Quel est votre rapport par rapport au sport ? Quelle est votre culture, si on peut parler comme ça ?
Alors malheureusement, moi j'ai jamais été très amie avec le sport, dans ma pratique personnelle, même si je fais beaucoup de marches, mais c'est à peu près la seule chose que je fasse. Quand j'étais petite, j'ai fait un peu de natation et un peu de basket, mais c'était quand même limité. Mais par contre, le sport est pour moi constitutif d'un projet de société. C'est-à-dire, si on pense une société, il faut penser la place du sport comme la place de la culture, et particulièrement ce sport un peu anonyme et sous les radars qui est fait par chacun, chacune au quotidien et qui est un facteur extrêmement important de bien-être.
Non mais c'est-à-dire que vous avez été élevé dans le sport, vous avez passé une grande partie de votre vie en région parisienne, je crois savoir. Après, vous
non, êtes... non, je suis restée jusqu'à mes 9 ans à Paris, puis après je suis allée à La Rochelle.
Ouais. Voilà, et après vous êtes partie dans le Nord pendant très très longtemps.
Oui, 20 ans, oui.
Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez forcément un rapport en fonction de votre ado au sport.
Oui, bah évidemment, j'ai déjà des souvenirs de grands événements sportifs, j'ai des souvenirs des clubs qu'on soutenait. Mais moi, j'ai jamais été une fervente supportrice. J'ai beaucoup aimé certaines compétitions, mais j'étais jamais une fervente supportrice d'un club. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de mes enfants, qui eux sont d'ardents défenseurs d'une équipe de foot.
Du Lille Olympique Sporting Club.
Tout à fait, et qui sont allés depuis leur plus jeune âge. Mm.
C'est-à-dire que régulièrement, ils vont au stade, régulièrement... Ils sont obligés de vous rendre compte des exploits de Lille, qui fait partie des grandes équipes de ce championnat de France de Ligue 1.
Vous ils ne sont même pas obligés, mais en fait, quand je discute avec eux, forcément, à un moment donné, la discussion arrive sur Lille. Et quand ils étaient petits, leur père les emmenait énormément au stade, les filles comme les garçons. Et j'ai une petite anecdote d'ailleurs à ce... Et voilà, bon, je vais faire quelque chose, c'est que je vais m'excuser auprès de mes enfants. C'est que quand ils étaient petits, que Lille a gagné le championnat de France,
oui. Ils
avaient réussi à obtenir la signature de toute l'équipe sur un maillot de foot. Donc il y avait Eden Hazard, il y avait tout le monde qui avait signé leur maillot de foot. Et un jour, ils l'ont laissé traîner et je l'ai lavé. Et voilà, je voudrais m'excuser auprès de vous, mes enfants, parce que je sais que c'était pas correct. Voilà.
Oui, parce que les autographes ont disparu quelque part.
Ah bah, la lessive était efficace, oui.
Sandrine Rousseau, quel est votre rapport avec le sport ? C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement important, quoi qu'il arrive. On aime ou on n'aime pas.
C'est quelque
mais
chose...
c'est utile.
C'est utile, c'est des moments de cohésion nationale aussi, beaucoup. C'est des moments de joie, c'est des moments de bonheur, c'est des moments qui sont aussi des moments de loisir un peu accessibles à tout le monde, quel que soit l'endroit où on vive en France, quel que soit voilà, notre argent, l'argent dont on dispose, etc. Donc en fait, c'est quand même des moments très importants. Après, il y a quand même encore des progrès à faire dans le sport. Et moi, à chaque fois que je vois une compétition de sport ou à chaque fois que je vois un grand champion, etc., je me dis, bon, il y a quand même des choses à améliorer, évidemment en termes d'égalité femmes-hommes, aussi en termes de lutte contre le racisme, contre l'LGBT-phobie, pour que le sport soit pas juste un divertissement, mais aussi un lieu où s'écrit quelque chose de notre société.
Alors, vous trouvez qu'on n'en fait pas assez ?
Oui, je trouve qu'on n'en fait pas assez. Je trouve qu'il y a quand même eu des épisodes qui ont un peu entaché notre histoire sportive. Je pense à Surya Bonaly, par exemple, et cette médaille d'or dont on peut contester qu'elle ait été ratée. Et puis, il y en a plein d'autres, mais je trouve que... Aujourd'hui, par exemple, si on prend la question du sexisme, la place de Jeannie Longo dans notre récit sportif est complètement sous-estimée aujourd'hui, alors qu'elle a été une championne mais incroyable. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait eu d'autres champions de son ampleur. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose aussi dans la mémoire des sportifs, dans la glorification des sportifs et dans dans l'histoire du lien entre société et sport qui est encore un peu à bouger. Oui.
Non mais vous comprenez qu'il y a des millions de personnes qui regardent à la télévision ou en écoutant la radio la Coupe du Monde de football. Vous comprenez que, par exemple, il y a environ un mois, il y a eu des records d'audience sur France Télévisions pour la finale du top 14 de rugby entre La Rochelle et Toulouse. C'est hyper important. Il y a des millions d'auditeurs sur Europe 1. Vous comprenez quand même cet engouement ?
Bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr. Et moi, quand je vais dans les stades, parce que je suis quand même allée... souvent, finalement, dans des stades, je vibre aussi. C'est-à-dire, c'est des lieux où nous vibrons, enfin, vraiment presque physiquement, où on a la chair de poule, où il y a une ambiance particulière et où il y a quelque chose de l'ordre d'une cohésion collective. Donc oui, ça, je le ressens énormément, bien entendu, évidemment, heureusement.
Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, moi, j'ai regardé la finale de 83 de Yannick Noah.
Oui.
Ça fait 40 ans, ça fait partie des grands souvenirs de votre vie.
Oui, tout à fait, parce que je me souviens que j'étais dans un canapé, je me souviens même qu'il était bleu et que je regardais et que j'étais émerveillée par ce qui... Enfin, les images, évidemment, dont je me souviens le plus, parce que j'étais quand même jeune, c'était le moment où il tombe dans les bras de son père et il y avait... Enfin, ouais, c'est quelque chose dont on se souvient. Quand on l'a vu, on s'en souvient.
Et la Coupe du Monde de 98
? Ah, la Coupe du
Monde.
Ça,
vous en souvenez ?
Je m'en souviens très bien. En 98, j'étais enceinte de mon premier enfant et j'ai dansé, je chantais. Et d'ailleurs, c'est une fille, elle fait du foot aujourd'hui et je pense que ça n'est pas totalement étranger à ce qui s'est passé ce soir-là. Parce que je pense qu'elle a eu toute la musique de la fête du sport. Oui.
En tous les cas, le sport fait partie, qu'on le veuille ou non, de votre quotidien. Même si vous n'êtes pas une grande spécialiste de sport, vous intéressez au sport. C'est ça qui est important.
Oui, parce que c'est une fête populaire. C'est une fête populaire, le sport. Et beaucoup de gens, et d'ailleurs j'ai le plus grand respect pour les supporters, par exemple, de clubs qui se déplacent, qui soutiennent, qui parfois posent des jours de congé, qui parfois mettent de l'argent dans les déplacements pour aller suivre une équipe, supporter une équipe et faire en sorte que les joueurs ne soient pas seuls sur un terrain. Ou les joueuses. Et là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un sacrifice personnel pour aller soutenir quelque chose d'autre. Et oui, j'ai le plus grand affection, même, je dirais, pour ça. Et après, j'ai envie de dire, les équipes féminines manquent de supporters, donc mobilisez-vous.
En plus, vous avez raison. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous intervenez sur tous les sujets de la politique. C'est votre rôle, dans tous les cas, c'est votre vocation. Vous avez décidé de faire de la politique au plus haut niveau. Et jamais on vous a entendu parler de sport. Parce que d'abord, on vous a jamais posé la question, parce que c'est intéressant de vous entendre.
J'ai essayé un peu d'en parler après le confinement parce que je trouvais que le sport avait été le grand oublié du confinement, du Covid. On avait interdit aux gens de faire du sport à un moment. Et cet enfermement, sans possibilité d'avoir accès comme ça à l'exercice physique, eh bien, était non seulement une question de santé physique, mais aussi de santé mentale pour bien des gens. Et donc, j'avais essayé de placer le sport à ce moment-là dans le débat
politique. Et ça
n'a pas marché,
on vous a pas écouté.
Non, pas du tout. Mais ça n'a pas du tout pris, alors que pourtant, quand je porte des thèmes, en général, il y a quand même des fois du répondant. Mais là, non, ça n'a pas du tout pris, alors que pour moi, c'était fondamental, par exemple.
Et pourquoi ça n'a pas pris ?
Parce que c'est une question que je me pose.
Ils n'avaient pas envie d'entendre éventuellement des conseils, de faire du sport pendant le confinement, etc.
Je ne me plaçais pas du tout sous l'angle du conseil, mais juste sous l'angle droit à faire du sport. Oui, et puis en fait, on s'est aperçu dans cette période-là que c'était quand même important pour nous de marcher, de courir, d'aller taper une balle. Que ça soit complètement passé sous les radars me semble... poser une question de société, c'est-à-dire quelle est la place qu'on accorde au sport, à part être spectateur d'événements sportifs que d'autres font, quelle place on accorde au sport de tous les jours, des gens qui le font, Et en fait, peut-être qu'on n'en accorde pas assez. Parce que ça, peut-être que ça dit ça. Peut-être qu'on n'a pas vu l'importance de ça. Peut-être que, en fait, après ce confinement, les gens n'ont pas perçu, du moins la classe politique, si je peux parler comme ça, n'a pas perçu l'importance que ça avait pour les gens.
Alors justement, vous me tendez une perche. La vision du sport, pour vous, c'est quoi ? Là, vous venez de faire une allusion en disant on ne donne pas d'importance au sport dans la société de maintenant. Vous considérez qu'on zappe un peu ?
On donne de l'importance à certains événements sportifs, pas
non, mais je parle au quotidien pour les Français.
Et alors, au quotidien pour les Français, je trouve que non, on ne valorise pas ça. On ne valorise pas l'idée de faire du sport. C'est presque, j'ai l'impression que le sport, c'est presque quelque chose qu'on fait dans des interstices d'un emploi du temps. Vous voyez, on va au boulot, on fait les courses, si on a un peu de temps, on fait du sport. Alors qu'en fait, si on prenait le sport avec toute l'importance que ça a, eh bien on devrait vraiment favoriser le sport. Et d'ailleurs, j'avais vu que des pays comme l'Islande, par exemple, travaillaient énormément sur le sport comme étant un exutoire des passions, des colères et des sentiments, des émotions. Et ça avait considérablement réduit la consommation de psychotropes et même les violences. Et en fait, le sport, c'est aussi une manière de se défouler et de se donner, quoi. De transpirer et d'être content de soi aussi. C'est un rapport à l'estime de soi, le sport. Même si on en fait mal, même si on en fait peu, on est content quand on est allé marcher une heure ou quand on a couru une demi-heure.
On l'a évoqué, Sandrine Rousseau, vous êtes sur Europe 1. La vision du sport, vous l'avez évoqué. Vous me dites, on ne fait pas assez de sport. Mais est-ce que quelque part, le sport n'est pas assez important dans les écoles, dans les lycées, dans les universités ? Vous avez été à Sciences Po Lille. Enfin, je veux dire, vous connaissez mieux que quiconque, en tous les cas, cet environnement. Est-ce que quelque part, on a du retard ?
Le sport est vu comme une matière comme une autre et pas comme une source d'équilibre, y compris dans les formations qui sont les plus difficiles. Et qui donc mérite un équilibre mental et physique. Et c'est pas du tout perçu comme ça. C'est perçu pour avoir une note, pour avoir des crédits, en fait, peut-être qu'on se trompe en voyant le sport uniquement sous cet angle-là. Ça peut être ça. Mais le sport, c'est aussi avant tout quelque chose de l'ordre de se sentir bien et encore une fois d'être à l'aise avec son corps. Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais les femmes sont très souvent confrontées à leur corps dans le sport. C'est-à-dire que soit on leur dit qu'elles sont trop grosses, soit trop petites, soit trop grandes. Et en fait, il y a énormément de complexes que connaissent les femmes pour aller faire du sport qui sont liés au regard que l'on porte sur leur corps. Et se réapproprier une pratique de sport, c'est aussi se réapproprier son corps. Et d'ailleurs, j'ai fondé une association il y a plusieurs années qui s'appelle Parler, qui est une association de lutte contre les violences sexuelles. Et on avait organisé des séances de sport pour les femmes qui étaient victimes de violences pour qu'elles se réapproprient et leur corps et l'espace extérieur. Et ça marchait très bien. C'est-à-dire que les femmes étaient très heureuses de cela et elles retrouvaient quelque chose de l'ordre de la joie, en fait, du bonheur.
C'est aussi valable pour les hommes.
Faire de l'effort.
C'est aussi valable pour les hommes, quelque part.
Tout à fait. Oui, parce que les hommes, par exemple, qui sont en surpoids, qui ont des problèmes d'obésité, sont aussi confrontés à des stigmates sur leur corps. Et j'ai une pensée quand même aussi pour toutes les personnes LGBT qui sont très confrontées à des discriminations. Notamment, les vestiaires sont des lieux de discrimination qui peuvent être importants. Et donc, c'est toute cette révolution-là aussi qu'on a à faire pour que le sport soit beaucoup plus inclusif.
Oui, mais je pense que vous êtes d'accord avec nous. La culture du vestiaire, du vestiaire est très importante pour tout le monde. Pour des garçons, pour des filles. Vous êtes dans un vestiaire d'une équipe de basket ou d'une équipe de football ou une équipe de rugby. Ça vous apprend aussi à aimer l'autre. Vous êtes d'accord avec moi ?
Oui, mais la culture du vestiaire, ça ne doit pas être une culture de la discrimination. Ça doit être une culture d'entraide, ça doit être une culture de solidarité, ça doit être une culture de partage, de bonheur, mais pas une culture de discrimination. Et ça peut l'être. Et il ne faut pas se voiler la face là-dessus, ça l'est dans bien des cas. Combien d'enfants, par exemple, je pense à des garçons gays, combien ont eu peur d'être dans des vestiaires ? Par peur des réflexions qu'ils allaient prendre. Ça, c'est plus possible aujourd'hui. Et combien de femmes ont eu peur des vestiaires ou des douches de piscine à cause de leur corps ? Oui à la culture du vestiaire, mais à condition que ce soit vraiment une culture qui n'est que du positif et pas du négatif.
Alors justement, on est sur Europe 1, on parle de sport avec vous, Sandrine Rousseau, on a parlé de vos souvenirs, on a parlé de... Vous marchez beaucoup ?
Oui.
Racontez-moi.
Ah ben
c'est tous les jours, c'est trois fois, quatre fois par semaine.
Ah non, je marche en moyenne tous les jours, je fais 10 km à pied, ce qui est quand même...
Ah, c'est beaucoup.
Oui, tous les jours.
Et comment vous faites? Vous partez de chez vous, pour le bureau?
Oui, je fais tout à pied.
Tout à pied?
À pied ou en transport en commun, mais à la fin, ça fait marcher et je fais moyenne même 10,6.
Et ça vous fait du bien précis. Vous en avez besoin? Vous êtes passionné par ça? Votre corps en a besoin? Si vous arrêtez demain, c'est pas bon?
Ah oui, je pense que si j'arrête de marcher, je me sens pas bien. Et un des grands plaisirs que j'ai, c'est d'imaginer que je vais aller marcher en forêt, par exemple. Ça, c'est quand je suis stressée, quand l'exercice politique devient compliqué, ce qui peut arriver. Eh bien, il m'arrive très souvent d'imaginer que je marche en forêt.
Alors moi, j'ai eu la chance de côtoyer quelques leaders politiques. Et encore merci, Sandrine Rousseau, d'être avec nous sur Europe 1 pour parler de sport. Moi, j'ai toujours dit qu'un homme ou qu'une femme politique était aussi un sportif de haut niveau. Quelque part.
Oui, c'est vrai.
Vous êtes obligé de vous préparer.
C'est vrai.
Avant un grand meeting, avant une grande émission de télévision ou une grande émission de radio, on a l'impression que comme vous êtes comme un sportif de haut niveau, vous êtes obligé de vous préparer tout simplement.
Oui, alors il y a déjà un aspect physique dans l'exercice politique, parce qu'on dort peu, on a des horaires décalés, donc il faut quand même garder une forme physique malgré une hygiène de vie qui n'est pas très facile. Et puis après, il y a quelque chose en effet de l'ordre du mental à travailler pour réussir à supporter tout ce qu'on a à supporter, à être toujours performant, à avoir quelque chose de l'ordre d'une excellence aussi dans la pratique politique. Et oui, ça fait, à mon avis, on a des manières d'être qui peuvent être proches de sportifs de haut niveau, oui.
Vous êtes obligé de vous préparer, en fait. J'insiste, mais c'est la vérité.
Bien sûr.
Vous êtes obligé de vous préparer.
Mais y compris physiquement, parce qu'on se prépare mentalement à des exercices politiques ou à des compétitions politiques, mais on se prépare aussi physiquement. Parce que ça demande d'être en forme. Si vous arrivez à une campagne électorale que vous avez des cernes jusqu'ici, que vous êtes au bout des rotules, en fait, vous n'arriverez à convaincre personne qu'il faut voter pour vous. Donc ça fait partie aussi, la bonne santé physique en fait partie.
Et vous avez un point commun avec les sportifs de haut niveau, c'est que vous êtes obligé d'apprendre la victoire, d'apprendre à gagner et d'apprendre aussi à perdre. Ça fait partie aussi de la culture.
Oui, on apprend à gagner, on apprend à perdre. On apprend à subir aussi les moqueries, les attaques personnelles quand on perd, par exemple. Tout ça, on l'apprend, oui. Après, je vais vous dire, ce n'est pas la partie la plus facile, en fait, de l'activité politique. Je pense que ce n'est pas la partie la plus facile du sportif.
Alors, justement...
Et comme les sportifs, d'ailleurs, je pense qu'on est à la fois aimé et détesté.
Non, vous avez raison. Mais ce qui est important aussi, c'est que quand je parle de vision du sport... Il faut redonner, et je crois que vous avez complètement raison, il faut redonner plus d'importance au sport dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est important. Et vous avez l'intention de continuer ce combat, entre guillemets, parce que vous en menez beaucoup. Et celui-là, il est important, parce que tout le monde est rassembleur. Vous avez envie de rassembler.
Oui.
C'est important.
Mais ça nécessite de vraies politiques publiques du sport au quotidien. C'est-à-dire, ça nécessite que, par exemple, quand on a une maladie, on puisse avoir aussi des ordonnances de sport. Et pas que des ordonnances médicales. Ça nécessite qu'on ait du temps pour soi, du temps pour nous. Parce qu'en fait, le sport, c'est un temps qu'on se consacre à soi. Si on a des horaires de travail qui sont complètement éclatés sur la journée, de 7h à 19h, on ne va pas y arriver. Si on a un métier qui est trop pénible, on ne va pas réussir à faire du sport le soir. Et donc, en fait, ça nécessite de revoir presque toute l'organisation d'une société pour permettre à chacun et chacune d'avoir sa place dans le sport et son temps de sport. Et ça, bien sûr qu'on va continuer à se battre à l'Assemblée
nationale. Il faut vous battre parce que d'abord, je crois que tous les ados ont envie de faire plus de sport. Parce qu'on parle des problèmes des ados actuellement, on parle bien sûr des problèmes qu'il y a dans les cités, etc. Et si on imposait plus de sport, ne serait-ce que dans les cités, c'est pas une solution, ça ?
On peut imposer plus de sport, on peut aussi se dire qu'il y a aussi des manières d'être sportif qui ne sont pas uniquement sur le mode de « je gagne, je perds, tu gagnes, tu perds, on est vainqueur sur toi ou pas », mais aussi des manières de faire du sport qui soient plus coopératives et qui permettent de travailler justement les liens d'entraide. Et par exemple, on valorise beaucoup tout ce qui est compétition en sport, on valorise moins tout ce qui est de l'ordre d'activités sportives plus plus quotidienne et sans compétition. Et si on valorisait davantage ça, peut-être qu'il y aurait plus de gens qui iraient faire du sport. Parce qu'en fait, eux, la compétition, ça ne les intéresse pas. Ils ne se sentent pas suffisamment en bonne forme pour pouvoir faire cette compétition. Par contre, faire de la marche, du tennis de table ou de l'escalade, simplement pour le plaisir comme ça et qu'il y ait des temps qui soient sacralisés et garantis là-dessus, c'est bien. Et je rappelle aussi que les clubs de sport amateurs comme ça ont besoin d'argent parce qu'aujourd'hui, souvent, ils travaillent sur du bénévolat, ils tendent la corde des gens qui s'engagent pour eux et que, en fait, ils font un travail presque de service public en offrant des créneaux à toutes les personnes et que ces petits clubs-là ont énormément besoin de soutien public.
Vous savez, aussi bien que moi, Sandrine Rousseau, que le gros problème du sport actuellement, c'est le bénévolat. Il y a de moins en moins de bénévoles. C'est-à-dire qu'ils en ont marre de s'occuper d'une équipe de football, d'une équipe de rugby, d'une équipe de basket, d'une équipe de hand, parce qu'ils ne sont pas respectés. Et parce qu'il y a des problèmes autour du stade. Vous le savez,
vous en êtes conscient. Il y a ça, et puis il y a aussi un temps considérable donné à cette activité bénévole qui n'est jamais reconnue. Donc la reconnaissance du bénévolat, du don aux associations, du temps passé pour autrui, c'est important. Quand vous dites qu'il y a des problèmes autour du stade, mais par exemple, canaliser une sorte de violence dans tous les quartiers d'ailleurs, parce que ça peut très bien être dans les quartiers les plus riches comme les plus pauvres, canaliser une sorte de violence avec un arbitre, avec des règles, avec un cadre, c'est très important.
Moi, je ne comprends pas, je vous le dis clairement, et je suis d'accord avec vous, Sandrine Rousseau, je ne comprends pas pourquoi on ne donne pas plus d'importance au sport, et je ne comprends pas surtout que nos leaders politiques, entre guillemets, ou en tous les cas même des gens des autres partis, ne se rendent pas compte que le sport, il est indispensable à la vie de tous les jours.
Bien sûr.
Vous en êtes consciente?
Mais évidemment, évidemment.
Non mais il faut y aller encore plus, Sandrine Rousseau. J'adore le football, etc. Mais je trouve qu'il faut en donner beaucoup plus. À l'Assemblée nationale, je n'entends jamais une question au gouvernement concernant le sport. Jamais.
Alors, j'en avais parlé, ça avait fait beaucoup rire d'ailleurs sur Mbappé parce que la question c'était la retraite des sportifs parce qu'on pense toujours à la retraite des sportifs qui sont de très haut niveau et qui ont plein d'argent, mais il y a plein de sportifs qui ne gagnent pas suffisamment pour avoir une retraite décente et donc j'avais porté ce sujet-là en parlant de Mbappé, ce qui évidemment avait fait beaucoup rire parce qu'on n'avait pas vu la suite de la vidéo. Mais ça fait aussi partie c'est-à-dire, faites du sport, mais même faites-le à n'importe quel niveau et l'État vous accompagnera pour que cette pratique du sport vous permette de continuer derrière une carrière professionnelle, de permettre d'être en bonne santé, permettre de faire vivre des clubs, de faire vivre un milieu associatif, un quartier. Et en fait, tout ce que vous faites là, c'est du bien commun.
Merci Sandrine Rousseau d'être avec nous sur Europe 1. On parle de sport, une fois n'est pas coutume. Vous avez vos combats, vous avez vos idées. Et vous avez accepté bien d'être notre invité, parce que je m'aperçois que depuis le début de l'émission, le sport fait partie de votre vie. Alors l'importance, on va y revenir, du sport dans la vie. Je voudrais qu'on insiste vraiment sur ce sujet, sur cette thématique, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui trouvent qu'on ne fait pas assez de sport, trouvent qu'on ne parle pas assez de sport, etc. Quand il y a quelques jours, il y a cette finale du top 14 entre Toulouse et La Rochelle, vous avez vu l'engouement, vous avez vu ce match, vous avez vu la Coupe du Monde de football entre la France et le Brésil, etc. Les Français aiment le sport. Les Français regardent la télévision, écoutent la radio, lisent les journaux, mais je trouve qu'ils ne s'investissent pas assez au quotidien.
Moi, c'est mon avis, mais je me trompe. Ils regardent du sport.
Ils ne regardent, en fait.
Oui, ils en font moins qu'ils n'en regardent, peut-être. Je ne sais pas si on peut dire ça, d'ailleurs.
Oui, on peut le dire. Bien sûr qu'on peut le dire. Mais vous avez des matchs de football, que ce soit le Paris Saint-Germain, que ce soit Lille, visiblement un des clubs de votre enfance, entre guillemets, que ce soit La Rochelle, où vous avez passé une partie de votre jeunesse, etc. On s'aperçoit quand même qu'il y a peut-être plus de téléspectateurs et d'auditeurs et de lecteurs qui regardent les événements, mais que la pratique est moins importante.
Oui, la pratique est moins importante. Et comment on fait
Mais on manque de moyens.
Comment on fait pour passer
Est-ce qu'on manque de moyens? Non, on a les stades.
Alors, on ne manque pas forcément d'infrastructures, encore que sur Paris, ce n'est pas si simple que ça, par exemple, parce qu'il y a vraiment une surcharge des créneaux dans les équipements sportifs.
Alors, je vous aurai tout de suite, Sandrine Rousseau. À Paris, c'est une catastrophe.
Voilà.
Je le dis.
Donc, on a un problème sur les infrastructures.
Il y a un gros problème dans les grandes villes.
Oui.
Dans les grandes villes, il y a un gros problème.
Où il y a un embouteillage sur les grosses infrastructures.
On est d'accord.
Donc, et en ruralité, il y a des endroits où on manque aussi d'infrastructures. Donc, il y a quand même un sujet.
Mais moins.
Faut quand même qu'on répartisse les choses. Bon, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que derrière, il y a l'infrastructure, mais il y a le club, il y a l'association, il y a le fait qu'on ait du temps pour y aller, qu'on ne mette pas, par exemple, 1h30 de transport et que ça nous bouffe tout notre temps dans la journée et que du coup, on ait le temps de faire du sport, tout ça. En fait, ce sont des politiques publiques. Faire en sorte... C'est pour ça que le télétravail, par exemple, je pense qu'on pourrait le coupler avec une pratique, soit culturelle, soit sportive, de sorte que les gens restent chez eux, évitent du transport et derrière puissent faire... soit donner du temps à des associations, soit faire du sport, soit faire du dessin, de la musique, de ce qu'ils veulent. Mais qu'au moins, il y ait cet accès au temps de loisirs. Et je trouve qu'en France, on étudie les sujets les uns séparés des autres. C'est-à-dire qu'on a le travail, on a le sport, on a la culture. Alors qu'en fait, on devrait peut-être s'interroger à partir de la vie des gens. C'est-à-dire de 8h le matin ou de 7h le matin jusqu'à 23h, qu'est-ce que vous faites et comment on peut mieux arranger votre journée pour que vous ayez le temps de faire du sport pour vous.
Vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai 3 enfants. Comment vous avez élevé vos enfants par rapport au sport?
Alors, ils en ont tous fait, tous les 3, et beaucoup. Et il y en a une qui en a fait vraiment de manière très, très intensive. Les 3 ont fait du sport et c'était très important parce que je trouve que le sport est aussi, et ça, on ne l'a pas beaucoup dit, mais c'est aussi ça dépend des sports, mais quand même, un lieu de mixité sociale. Un lieu de mélange, un lieu où on n'est pas qu'avec les gens qu'on connaît de son école, mais qu'on est plus largement. C'est un lieu où on apprend à perdre, on apprend à gagner.
Oui, on l'a dit tout à l'heure.
Ouais, et en fait, c'est un lieu vraiment très important pour se construire en tant qu'adulte. En fait.
30 minutes de sport par jour, c'est pas beaucoup, hein?
C'est pas terrible.
Hein. Franchement, c'est pas terrible.
Ça peut être beaucoup quand vous êtes une maman célibataire. C'est beaucoup, par exemple, de consacrer 30 minutes à du sport.
Il y a un sujet sur lequel vous avez beaucoup interpellé les auditeurs d'Europe 1 ou même à la télévision quand vous participez à des débats, c'est la mixité dans le sport. Je crois, très honnêtement, et là je suis d'accord avec vous, qu'il y a un énorme retard, que ça soit dans les instances dirigeantes, de tous les sports confondus, que ça soit dans les petits clubs, je veux dire, on ne fait pas assez appel, à cette mixité qui est indispensable. Elle est indispensable. Mmh. Et je crois qu'on ne va pas loin encore. On ne va pas assez loin. On a même beaucoup de retard.
Non, on ne va pas loin. Et le sport féminin...
Il y a un peu de progrès par rapport à il y a 5 ou 6 ans. Il ne faut pas non plus voiler la face.
Mais le sport féminin souffre encore d'un retard énorme. Il n'y a qu'à voir les salaires des sportives par rapport aux sportifs, qui sont 3 à 4 fois inférieurs. Et puis, si on écoute, par exemple, une ancienne joueuse de foot comme Mélissa Plaza, et qu'elle décrit sa pratique du foot à haut niveau... Mais féminin, c'est affligeant. C'est affligeant. C'est-à-dire qu'elle avait des chaussettes en taille 43 parce qu'il n'y avait pas de chaussettes prévues pour les femmes, etc. Donc là, ce n'est pas correct ce qui se passe sur les femmes. Et on a trop pris de retard et il y a quelque chose vraiment à aller chercher du côté du sport des femmes, de la valorisation des femmes dans le sport et de la valorisation des sportives aussi. Et je reviens à Jeannie Longo, qui est quand même une sportive incroyable et que l'histoire ne retient pas complètement à la hauteur de ses exploits.
Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais très honnêtement, Sandrine Rousseau, comme je m'intéresse au sport depuis malheureusement très très longtemps, on s'aperçoit quand même qu'il y a un peu de progrès petit à petit, mais ça ne va pas assez vite.
Non, ça ne va pas assez vite.
Ça
ne va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite. Et vraiment pas. Et là, maintenant, il faut qu'on bouge là-dessus. C'est-à-dire qu'on reconnaisse qu'il y ait des équipes féminines à la même hauteur que les équipes masculines, que ça soit représenté dans les émissions de la même manière pour les femmes et pour les hommes. Alors, il y a des progrès dans les retranscriptions à la télévision, mais on est loin du compte.
Enfin, on a mis du temps quand même à retransmettre la Coupe du Monde de football féminine, où il fallut un accord
au dernier moment
entre M6 et France Télévisions.
Exactement. Et voyez,
la FIFA demandait beaucoup, beaucoup trop d'argent.
Et c'est la honte. Oui, mais c'est la honte. C'est la honte qu'on en arrive là. Et en plus, je suis sûre qu'il y aura des scores d'audience. Je vous fais le pari qu'il y aura des scores d'audience.
Non, mais vous avez raison.
Et il y a un petit sujet quand même aussi dont on n'a pas parlé, dont il faut parler. C'est aussi les violences à l'intérieur des fédérations sur les enfants, où
vraiment,
là, il nous faut une politique de prévention.
Non, mais là, vous avez raison. Alors, c'est quoi la politique de prévention? Comment on s'y prend? Parce que c'est, très honnêtement, cette histoire de viol, de sexisme dans le sport, etc., d'abus, etc., on l'a découvert il n'y a que 3 ou 4 ans. Hein. Attention, même si ça existait, même si on n'osait pas en parler, c'est quelque chose qui est devenu public récemment, vous êtes d'accord avec moi. Donc, il faut s'habituer aussi à cette nouvelle forme de drame dans le sport.
Oui, c'est pour
on
ça.
On n'a pas été préparé.
Non, mais c'est pour
on
ça.
On s'en
que...
doutait, mais on n'a pas été préparé.
Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut faire des choses maintenant.
Alors,
pour que ça ne se produise plus.
Qu'est-ce que
plus.
Vous voulez faire, Sandrine Rousseau?
Eh bien, qu'il y ait des politiques de prévention, qu'il y ait des sanctions quand il y a des abus qui sont commis, qu'on vérifie que les personnes qui sont engagées dans les différents clubs sportifs n'aient pas eu d'antécédents en matière de violence sur les enfants ou sur les femmes. Et puis, qu'on ait des messages de prévention aux enfants pour leur dire que s'ils se sentent mal à l'aise, s'ils sentent qu'il y a eu des gestes déplacés ou quoi, eh bien, qu'ils préviennent tout de suite la direction, la fédération, peu importe, mais qu'il y ait un processus qui soit identifié et qu'on ne laisse pas les enfants seuls face à ça.
Vous êtes restée à Lille pendant je ne sais pas combien de temps,
oui.
Près de 20 ans je crois.
Oui.
20 ans. Est-ce que vous avez été approchée, entre guillemets, pour régler ce problème de viol dans différentes micro-sociétés du côté de Lille? Est-ce que vous l'avez découvert de vos... à l'époque, vous étiez en fonction?
Alors,
avant d'être députée à Paris?
Pas spécifiquement à Lille, mais j'ai été alertée sur plusieurs...
Même maintenant encore?
Oui.
Régulièrement?
Oui. Et
c'est-à-dire, donnez-moi des exemples, par exemple.
Il y avait deux types d'exemples. C'est soit des entraîneurs avec des petits-enfants, et il y a quand même un travail exceptionnel qui est fait par certaines associations là-dessus. Et le deuxième cas, c'est souvent des entraîneurs qui prennent notamment des jeunes femmes. J'ai moins eu de témoignages de jeunes hommes dans ce cadre, mais sans doute y en a-t-il aussi, de jeunes femmes qui sont bonnes, mais qui ne sont pas encore des grandes championnes, et qui les accompagnent et qui créent comme ça une situation de dépendance avec elles. C'est-à-dire, si je ne suis plus ton entraîneur, ben, tu retombes, et qui font subir des choses à ces femmes, et ce n'est pas correct. Voilà.
Je voudrais qu'on revienne un petit peu à ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Vous m'avez parlé tout à l'heure de Yannick Noah. Il y a 40 ans, il n'y a pas longtemps, il gagnait Roland-Garros. 98, la Coupe du Monde, on fête en ce moment le 25e anniversaire de cette victoire. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs précis? Gianni Longo, je sais, mais est-ce que vous en avez d'autres?
Par exemple, là, comme ça, à chaud, j'ai le souvenir de 100 mètres avec Ben Johnson et Carl Lewis.
Ah oui.
Et Ben Johnson gagnant, et où tous et toutes, je crois, on s'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas du dopage derrière, tellement il avait une musculature étonnante. Bon. Et cette déception, en tous les cas pour moi, pour Carl Lewis, qui était mon héros du moment. Et voilà, je peux aussi vous dire que j'étais secrètement amoureuse d'Ivan Lendl, par exemple, quand j'étais adolescente et que je trouvais que c'était un homme incroyable et un sportif incroyable. Et évidemment que j'ai plein de souvenirs de sport comme ça.
Et justement, puisqu'on parle de souvenirs, qu'est-ce que vous avez comme souvenir, par exemple, de la dernière Coupe du Monde au Qatar? Même si le sujet est délicat, même si le sujet est croustillant, vous avez regardé quand même la finale entre la France et l'Argentine. Vous êtes d'accord avec moi ou vous avez boycotté comme certains?
J'ai boycotté
J'ai
boycotté tous les matchs sauf la finale, parce que comme on était en finale, j'ai regardé. Mais j'ai boycotté tous les matchs. Et honnêtement, je n'en ai pas un grand souvenir, en fait. Je pense que mon cerveau n'avait pas envie de regarder ça.
Même la finale de la Coupe du Monde?
Oui, j'ai pas beaucoup de souvenirs, alors que pourtant, c'est un des plus récents. Et je me souviens d'avoir regardé, je me souviens de n'avoir rien ressenti. Peut-être parce que le Qatar faisait écran.
Invité d'Europe 1, et si on parlait de sport, aujourd'hui c'est Sandrine Rousseau. Merci en tous les cas d'être avec nous. Alors on vous connaît évidemment, vous faites partie des personnes les plus médiatiques du monde politique, mais on ne vous a jamais entendu parler de sport. Alors il y a quelques secondes, vous m'avez dit, j'ai regardé la finale de la Coupe du Monde, je veux dire au Qatar, où la France affrontait l'Argentine, où la France a été battue, mais est-ce que par exemple, vous avez regardé la finale de la Coupe du Monde en Russie, où la France a battu la Croatie? Est-ce que vous en souvenez aussi? Vous n'avez pas boycotté quand même, vous n'avez pas tout boycotté.
Non, je n'ai pas tout boycotté, j'ai dû la regarder, mais alors je ne m'en souviens pas du tout. En fait, peut-être est-ce parce que je suis une femme politique, mais j'ai du mal à dissocier le contexte politique de la pratique du sport. Parce qu'en plus, on l'a vu pendant la guerre froide, le sport était une arme politique et le sport a une dimension politique. Et j'ai du mal, et là par exemple je pense à la finale de Coupe du Monde du rugby qui va être faite avec du sponsoring de Total, qui est une entreprise qui émet beaucoup de carbone, mais ça ne va pas tellement m'intéresser en fait. Et peut-être que c'est cela aussi qu'il y a à réfléchir dans le sport, c'est comment faire en sorte qu'un sport soit moins émetteur de carbone, mais qui ne s'allie pas non plus des intérêts économiques qui sont contre la planète et notre avenir.
Alors je voudrais vous parler des Jeux Olympiques, ça ne vous dérange pas?
Allez-y.
Bon, vous n'êtes pas une grande fan des Jeux Olympiques de 2024. Vous l'avez dit, les écologistes ont toujours été un petit peu hésitants dans cette organisation de 2024. Est-ce que vous avez un peu évolué? Parce qu'en fait, les Jeux Olympiques, vous le savez aussi bien que moi, c'est le centième anniversaire des premiers Jeux. quelque part, c'est indispensable dans une communication pour le pays. Vous y avez réfléchi aussi ? Si je peux me permettre. Hein.
Bien sûr que j'y ai réfléchi, et ce n'est pas un sujet très simple. Mais là, quand je vois des étudiants qui sont virés de leur chambre, pardon de le dire, mais ce n'est pas correct pour les Jeux Olympiques. Quand je vois des personnes qui sont en précarité, qui sont virées des hôtels parce qu'on va rénover les hôtels pour les Jeux Olympiques, ce n'est pas correct. Quand je vois qu'une partie des jardins d'Aubervilliers est mangée par une infrastructure des Jeux Olympiques, ce n'est pas correct. Et en fait, comment fait-on pour faire en sorte que les Jeux Olympiques retrouvent un peu l'esprit de Courbertin ? Alors, pas sur les femmes, parce que j'ai lu des citations de Coubertin qui m'ont hérissé sur les femmes, mais l'esprit de Coubertin du
par
départ...
Par exemple. Je ne suis pas sûr que Pierre de Coubertin...
était un grand féministe, ah non, pas
je
du
crois
tout.
Pas. Non, je ne crois pas. Je suis d'accord avec vous, je ne crois pas.
il parlait par exemple de Jeux Olympiques femelles au lieu de Jeux Olympiques pour les femmes. Et il disait que les femmes devaient être là uniquement pour remettre les couronnes aux vainqueurs. Bon, on ne va pas être d'accord avec de Coubertin là-dessus. Mais de Coubertin quand même avait cette idée que c'était des Jeux qui n'étaient pas des Jeux du fric. C'était des Jeux de la performance
des
sportive,
des amateurs,
etc. Et là, je trouve que l'esprit des Jeux Olympiques tel qu'il a été créé est quand même un petit peu dévoyé et à Paris comme dans le reste des Olympiades.
Oui, mais quelque part, Sandrine Rousseau, je ne dis pas que je vais essayer de vous convaincre, mais c'est important pour notre pays d'organiser une Coupe du Monde de football, comme on l'a fait en 98. C'est important d'organiser les Jeux Olympiques parce que nous sommes, même si ce n'est pas vraiment votre culture, nous sommes l'un des pays au monde où on est le plus capable d'organiser des grands événements. C'est important quand même pour nous, ne serait-ce que sur le plan économique.
Oui, mais on pourrait faire de manière différente. Par exemple, là, les Jeux Olympiques de Paris vont émettre probablement plus d'1,5 million de tonnes de carbone. Eh bien, on aurait pu imaginer quelque chose de très différent, c'est-à-dire moins d'éparpillement entre les villes, moins de trajets en avion entre les villes, moins d'infrastructures qui diminuent et qui sont à rebours d'une politique écologiste. Bon, voilà. Après, je comprends l'importance que ça peut avoir en termes de marketing, mais je dis aussi que, en fait, tant qu'on est sur du marketing avec un sponsoring comme ça qui n'est pas toujours exemplaire, on le voit sur la Coupe du Monde de rugby, bah, on valorise aussi l'image d'entreprise dont on n'a pas envie. Donc, comment on fait en sorte qu'on retrouve l'esprit des Jeux ?
Alors, le Qatar qui veut acheter le Parc des Princes. Le Parc des Princes, il appartient à la ville de Paris. Indirectement, il vous appartient puisque vous êtes élue parisienne. Qu'est-ce que vous en pensez aussi ? Ça vous choque ?
Ah bah oui, je pense que...
Vous êtes contre, archi-contre.
Oui. Ah oui, ça je pense que c'est pas possible.
Et donc, la mairie de Paris a raison de ne pas vouloir vendre.
Non, on ne peut pas
Là,
vendre.
Vous êtes d'accord avec Anne Hidalgo ?
Non, on ne peut pas vendre le stade de...
Le Parc des Princes.
Le Parc des Princes, pardon, au Qatar. Non.
Je voudrais terminer par quelque chose qui me touche beaucoup. On en a parlé avant de vous recevoir. Est-ce que quelque part, dans une autre vie, vous avez rêvé d'être une championne ? Est-ce que vous avez rêvé d'être Jeannie Longo, Marie-Josée Pérec, Amélie Mauresbo ? Est-ce que dans un rêve, il vous est arrivé de vous dire « j'aimerais gagner Roland-Garros, j'aimerais être championne olympique du 400 mètres ou du 100 mètres, j'aimerais être championne du monde de cyclisme féminin ». Est-ce que vous avez rêvé, très honnêtement ?
Je ne peux pas dire que j'ai rêvé parce que moi-même, n'ayant jamais eu de facilité sportive très grande, mais par contre, j'ai énormément admiré des femmes, ouais. Énormément
par
admiré.
Exemple.
J'ai énormément admiré Marie-Josée Pérec, j'ai énormément admiré plein de femmes en fait on a parlé de Jeannie Longo, les joueuses de tennis, Chris Evert Lloyd de mon époque, hein, Chris Evert Lloyd, Navratilova, Mauresmo. C'est des femmes que j'ai beaucoup admirées. Et j'en découvre encore que j'admire encore plus aujourd'hui qui sont les premières, les pionnières, celles qui ont par exemple, il y en a une dont j'ai découvert l'existence il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Catherine Switzer, qui est la première à avoir fait un marathon en mettant juste ses initiales, parce que c'était interdit aux femmes, et on pensait que si les femmes se mettaient à courir, alors elles perdraient leur utérus sur le chemin.
Bon.
Et donc, elle s'est mise uniquement avec ses initiales, et elle a couru. Et... énorme admiration pour ces femmes. Énorme admiration. Et puis, énorme admiration aussi pour des clubs comme les Dégommeuses, comme d'autres, oui, qui font un travail qui allie militantisme et sport, et gloire à elle.
Quand vous regardez à la télévision ou quand vous allez au stade regarder l'équipe de France féminine de handball ou de basket ou de volleyball ou même de football, quelque part ça vous fait plaisir tout ça parce qu'elles existent.
Exactement, exactement. J'ai beaucoup admiré des judokas, des escrimeuses, parce que c'est aussi des femmes qui montrent que
Céline Giraud, qui est maintenant chez nous comme journaliste.
Exactement. C'est des femmes qui montrent que c'est possible, que ça existe.
Et donc le sport féminin, alors ça, ce sera certainement notre dernière thématique, le sport féminin, vous nous l'avez dit, et je veux que vous me le confirmez bien comme il faut, n'a pas assez d'importance dans le sport de maintenant, dans le sport amateur, oui, ou professionnel.
Oui.
Il y a un retard considérable.
Il y a un retard considérable.
Mais pourquoi on a pris ce retard ? Parce que nous, les médias, les fédérations, les sponsors, on ne leur donne pas assez de moyens ? Il y a forcément des raisons.
Oui, et puis il y avait une espèce d'ambiance populaire. Moi, je me souviens d'avoir entendu plein de fois « Non, mais elles ne sont pas assez puissantes, elles ne courent pas assez vite, c'est moins impressionnant. » Et en fait, tout cela contribue au fait que ce serait un moins bon spectacle.
C'est alors pas que la France, hein.
Non,
c'est dans
c'est
toute
pas...
l'Europe, attention,
hein. Non,
et
non,
même pratiquement dans le monde entier, à part quelques exceptions.
C'est pas que la France, mais je pense que ça fait partie du combat des femmes que mettre le sport féminin à la même hauteur que le sport masculin.
Merci Sandrine Rousseau.
Merci à vous.
Merci, c'était super.
Merci beaucoup.
J'ai beaucoup aimé échanger sur le sport avec vous. Si on m'avait dit un jour que je ferais une émission sportive avec Sandrine Rousseau...
Et si on m'avait dit un jour que je ferais une interview avec Jacques Vendroux...
Merci Sandrine Rousseau, merci d'être venue sur Europe 1.
Merci beaucoup.
À très vite. Nous étions sur Europe 1 dans cette émission qui a un nom qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Et si on parlait de sport ? Merci Sandrine Rousseau.
Merci à vous.